retour sur Terre, retour chez les pauvres, retour de Dubaï, paradis des riches, du clinquant, du soleil, du tourisme de luxe, des belles autos et des très grands buildings. Et pas seulement, vous le verrez dans les reportages que nous rapportons, donc mes retours. Et tout de suite, on continue la série. Sur les brigades rouges, ou plutôt sur les années de plomb, une seconde version, une seconde édition de reportage que nous avions présenté il y a déjà 3 ans sur ce sujet. Je sais qu'il y a eu beaucoup de messages suite à la diffusion d'hier. J'en ai écouté quelques-uns. Elle prendra plus de temps la semaine prochaine pour écouter tout ça à tête reposée. Mais aujourd'hui, donc, ce nouveau volet de cette histoire noire et plombée.
Qui est Radio Alice?
Era il manifesto cannibale di Dada e i dadaisti che si accapigliano.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Francesco Giorgini en Italie, années noires, années rouges, années 70.
Flight number 2.
Le seul coup d'État qui n'est pas ridicule est le coup d'État qui réussit. Les coups d'État qui ne réussissent pas, ils sont toujours ridicules.
Tutti bravi ragazzi.
Tutti bravi ragazzi. Tutti bravi ragazzi.
C'était une situation fiévreuse dans l'Italie de ce moment-là. Et c'est ce petit degré qui fait détacher les icebergs, non? C'était tout l'iceberg qui commençait à se détacher parce qu'il y avait cette augmente de 1 degré de température dans les eaux.
La vraie séquence d'attentats, de assassinat, ça commence en 77-18 et culmine dans un épisode que vous connaissez très bien, qui est l'assassinat d'Aldo Moro, qui est un vrai clivage dans l'histoire, pas seulement politique, idéologique, italienne, mais dans la façon des Italiens de penser à soi-même.
Adriano Sofri.
L'Italie n'a jamais été la même, comme on dit, pour plusieurs dates, le 11 septembre, etc. Mais c'est vrai. Jusqu'à ce moment-là, les Italiens pensaient à soi-même comme dans la fausse illusion d'être italiano brava gente, des braves gens. C'était pas vrai, mais on pensait ça et on utilisait très généreusement la différence entre la cruauté jusqu'au boutiste des Allemands et l'arte di arrangiarsi, l'umanità et le calore umano des Italiens. À ce moment-là, tout ça s'est écroulé dans une sorte de désolation. Une espèce d'ivresse moleste, d'ivresse assassine. Après ça, cette espèce de terrorisme est devenu, d'une façon considérable, un terrorisme cannibale. On tuait des gens en les transformant en ennemis avec une promotion de ces gens-là qui n'étaient pas des ennemis ou qui pouvaient être des ennemis personnels ou presque particuliers, privés des gens qui menaient la lutte armée. On tuait des camarades de la lutte armée pour s'assurer de l'imminence de sa propre crise morale, personnelle. On tuait les pentiti, nouvel mot, un nouveau mot scandaleux du nouveau italien de ces années, les repentis. On tuait les pentiti. On a eu à ce temps-là vraiment des épisodes dont la cruauté et la gratuité rivalisent entre eux.
Il a le temps. Il a le temps de réfléchir, l'homme qui nous parle, Adriano Sofri. Il est en prison pour de nombreuses années, et depuis pas mal d'années déjà, dans sa prison à Pise, le prisonnier le plus encombrant, le plus gênant de l'Italie et qui se fait entendre et qui s'y connaît sur ces questions puisqu'il fut le leader d'un des mouvements les plus célèbres de cette époque, l'Ota Continua, au début des années 70, après l'attentat contre Piazza Fontana, cet attentat attribué à l'extrême droite. Ce mouvement, l'Ota Continua, a fait comprendre que c'était l'État qui mettait les bombes, qu'il s'agissait d'une stratégie, celle de la tension, la stratégie de la tension qui visait à déstabiliser, à apeurer, afin de favoriser l'avènement d'un pouvoir fort et stable, comme certaines sociétés, à quelques moments en rêve, et dont l'Italie avait rêvé autrefois. Donc Adriano Soffri a beaucoup réfléchi à cette époque, lui et ses camarades, à la violence, au recours à la lutte armée. Quelle lutte armée? Faut-il s'armer? Oui, c'était une période très violente, extrêmement violente, que cette Italie des années 50 et des années 60, où, comme le disait Henri De Luca, on tirait dans les manifestations paysannes ou ouvrières, on fusillait, disait Henri De Luca. Donc c'était une période très violente. Donc la question de la violence, de la riposte violente, se posait. Et pourtant, l'Ota Continua se dissout en 1976. Et c'est à ce moment-là, presque un peu plus tard, qu'on passe vraiment à la séquence de la lutte armée, de l'offensive armée, et ce sera le choix des Brigades Rouges. Et Aldo Moro, donc, 1978, 55 jours, cet homme sans défense, enfermé, prisonnier, est abattu par les Brigades Rouges. C'est une explosion, stupéfaction, stupeur en Italie, comme dans le monde. Et là, on va aller sur les conséquences, la suite et le bilan, au fond, de ces années de plomb en Italie. Conséquence avec Giorgio Galli, qui est professeur et un des politologues les plus écoutés en Italie, qui donne une analyse, la sienne, sur les suites et ce qu'a représenté l'exécution d'Aldo Moro pour l'histoire de l'Italie.
L'omicidio di Moro giustifica una dura repressione non solo nei confronti delle Brigate Rosse che vengono poi distrutte.
Tout à fait, c'est la fin. Des années 70, c'est la fin des mouvements de contestation, des mouvements de masse de contestation, c'est-à-dire que l'assassinat de Moro justifie la répression non seulement des Brigades Rouges qui seront démantelées en 2-3 ans, mais aussi la répression tout court de tout le mouvement contestataire qui durait depuis 10 ans. Et donc c'est quelque sorte la pierre tombale de ce mouvement et la légitimation à tout instrument de répression qui seront déployés en masse dans les années suivantes.
Et c'est la négation de toute cette énergie, de toute cette invention, de tout ce mouvement social de revendication, aussi bien sur le plan syndical que sur le plan des imaginations et des propositions de cette énergie politique extraordinaire que vous avez connue dans votre pays, par le coup de pistolet dans la tête de Moro.
C'est la fin.
Aboli. C'est pas seulement la fin, ça gomme tout.
Et puis, si y a l'immédiate répercussion politique est rése évidente.
Tout à fait, et cette débâcle du mouvement contestataire et ouvrier touchera aussi le Parti communiste, qui n'arrive plus à être une force de proposition, qui n'arrive plus à essayer de s'approcher du pouvoir à travers un compromis avec la démocratie chrétienne, qui donc va être exclu du giron de pouvoir pour les 15 années qui suivent. Et en quelque sorte, on peut dire qu'après l'assassinat de Moro, la politique italienne revient à la situation d'avant 68. C'est comme si l'assassinat de Moro remettait les pendules à l'avant 68, c'est-à-dire à une situation où la démocratie chrétienne est hégémonique et où elle joue de temps en temps au centre-gauche, de temps en temps au centre-droit, mais où la dynamique d'approche du pouvoir du Parti communiste est stoppée jusqu'à la prochaine crise institutionnelle et sociale italienne, qui sera main propre, le scandale de main propre, 12-13 ans après.
Une affaire de joueurs, finalement. Oui. Oui, l'histoire, c'est jouer aux hommes, disait Napoléon. Et dans les années 70, l'histoire en Italie a joué aux hommes, avec des petits joueurs et des grands joueurs derrière, comme sur les photos que l'histoire retient. Les petits font le boulot, le sale boulot, bien souvent, et les grands derrière sont cachés derrière le rideau. En l'occurrence, là, c'était le rideau de fer, par exemple. Et puis, bah oui, c'était la guerre froide, que voulez-vous. Alors, il y avait manipulation. Manipulation, instrumentalisation, infiltration, on a sans cesse posé ces trois questions avec Francesco. Et c'est des questions que nous ne sommes pas les premiers à poser. Elles se posent depuis 30 ans, 35 ans. Qui est derrière? Mais l'histoire n'est pas encore définitivement écrite. Le sera-t-elle un jour? Pas plus que le reste de l'histoire de notre passé. On ne sait pas demain quel passé nous aurons. En tout cas, voilà des observateurs engagés, très fins et très perspicaces, et qui aujourd'hui, comme Giorgio Bocca, font encore trembler leur pays. À 80 ans, Giorgio Bocca, célèbre plume de la Repubblica, l'esprit encore vif, alerte, acide, évoque ces années sur lesquelles il a longuement travaillé et écrit.
Jean Bonneux le tuait. Le Parti démocrate chrétien savait très bien que ce mort était libéré. Il y aura un grand changement dans la démocratie parce qu'il avrebbe cercato di fare una politica diversa, di indipendenza verso gli americani maggiore.
Il aurait essayé de faire une politique différente s'il avait été libéré, et surtout il aurait essayé de faire une politique d'indépendance par rapport aux États-Unis.
La gestione del caso Moro è stata fatta dalla CIA personalmente, insomma.
La gestione du cas dell'enlèvement de Moro è stata fatta direttamente dalla CIA.
Non hanno neanche nascosto che c'era questo comitato dove c'erano tutti i generali della P2 o generali americani e agenti della CIA.
Et ils l'ont même pas caché, le comité de crise qui a été formé pour suivre l'enlèvement de Moro était rempli des généraux des services secrets italiens inscrits à la loge P2 et des généraux américains et des agents des services américains.
Qui ont décidé de la fermeté, c'est-à-dire qui ont décidé de la mort de Moro. Quand vous dites que les brigades rouges ont permis à la société bourgeoise de se renforcer, de repartir, vous pensez au pouvoir d'aujourd'hui ?
Tutta la propaganda che Berlusconi ha fatto in queste anni anticomunista è in gran parte basata sulla paura che le Brigate Rouge hanno fatto alla borghesia italiana.
Oui, c'est ça. Les Brigades Rouges lui ont donné une rente de situation un peu.
Parce que la bourgeoisie italienne, comme je pense aussi celle française, a cette spécialité qui ne se contente pas de vaincre. Elle doit faire payer la peur qu'il y a eu dans ces années. On ne comprend pas qu'il y a millions d'Italiens qui ont peur d'un parti communiste qui n'existe pas. Les communistes italiens font une politique social-démocrate. C'est une vengeance parce que la patrie, pour les bourgeois italiens et je pense aussi pour les Français, c'est leur classe. La guerre partisane est très peu bourgeoise en fait. Mais maintenant, il y a en Italie cette retour à un coutume fasciste, drapeau, Italie, guerre, les militaires, il y a toute cette odeur de fascisme qui est retournée.
Boom! A un certo punto si è sentito boom, fumo, nebbia. Io qua, la mia porta si era bloccata, non riuscivo a andare. Questo banco ha fatto così, tutti i vetri a me addosso.
Et moi j'étais donc là, je faisais ma matinée, il faisait un chaleur épouvantable. À un certain moment, on a entendu cette énorme explosion, cette boom énorme. Et ma porte
fumo,
là pour sortir était complètement bloquée par les gravats. Ce comptoir il s'est effondré. Toutes les vitres ici du comptoir me sont tombées dessus et j'étais blessé. Et il y avait une fumée noire absolument inimaginable.
Exact. Poi dopo, questo banco qui mi ha fatto scivolare. Io sono volata via. con lo spostamento dell'aria mi ha fatto andare fuori. Io quando ho pestato dei cadaveri io sono scappata perché avevo paura, c'era uno che mi veniva dietro tutto tagliato con la testa là.
L'effondrement e le soufflement d'air a donc fait tomber les carreaux, a fait s'effondrer le comptoir, et moi je me suis retrouvé dehors. Et dès que je me suis levé, j'ai commencé à marcher et il y avait des blessés et des cadavres autour de moi, et moi ça m'a fait trop peur et je me suis enfui. Et il y avait un monsieur avec tout le cou coupé et tout le visage coupé par des vitres qui me poursuivait pour me dire aidez-moi, aidez-moi.
C'est la marque et c'est la trace et c'est le souvenir de ce qui s'est passé là, donc le 2 août 1980, cette bombe qui a explosé dans cette gare et qui finit ces années de plomb, qui les finit en noir. C'est un rideau noir qui tombe sur cette décennie, tout comme c'était un rideau noir qui l'avait ouvert, celui du terrorisme noir. Piazza Fontana, en 1969, un attentat aveugle contre des populations n'importe qui, attribué à des mouvements d'extrême droite, et puis avec compromission des services de l'État jusqu'à un niveau élevé. Puis derrière, qui a manipulé? Et à l'autre bout, 1980, à nouveau, une histoire sombre, terrible, avec de l'opacité, avec de la corruption, avec des manipulations. Et aujourd'hui, cette histoire est à peu près écrite, celle-ci, mais il reste quand même pas mal de zones d'ombre. Alors voilà, Paolo Bolognesi, qui est le représentant de l'association des victimes de la gare de Bologne, et qui situe l'histoire très clairement.
C'était un samedi.
C'était le moment où, le jour avant, avaient fermé toutes les fabriques.
Le jour avant, on avait fermé, c'était la fermeture des usines, c'était le 1er août, le vendredi.
Et on alors, c'était proprio la fuga vers les vacances.
Donc, il y avait vraiment la vague vers les grandes vacances, et notamment la vague des ouvriers.
Perché qui in agosto è vacanza totale, qui in Italia
sono a août on ferme tout en Italie du 1er août jusqu'au 27 août, et donc c'était vraiment le départ des ouvriers, quoi.
C'était intentionnel de choisir ce jour-là de départ en vacances.
Esatto. Perché era cioè il massimo del danno possibile, con il massimo della paura possibile, in quel giorno in cui questa stazione, che è sempre frequentatissima, quel giorno era un uovo, era completamente nuovo.
Le maximum de dommages possible, avec le maximum de terreur possible dans cette gare che tous les jours est très très fréquentée, mais ce jour-là elle était pleine comme un œuf.
Le mot fort là, c'est fasciste, victime della terreur fasciste.
Sì. Questa è una strage fascista comprovata anche dagli atti giudiziari.
Ça, c'est un massacre fasciste e ça a été prouvé par les actes judiciaires.
Ma è proprio l'ideologia fascista, almeno nell'ambito dei fascisti italiani, nei loro
scritti. Ça découle de l'ideologia dei fascisti italiani dell'epoca, qui parlait de purification de l'Italie par les massacres.
Vous étiez où, vous?
Io venivo col treno, perché
moi j'arrivais avec le train.
Qui a Bologna c'era mio suocero, mia suocera, mio figlio e mia madre.
Ici qui m'attendait, il y avait mon beau-père, ma belle-mère, mon fils e ma mère. Qui m'attendait ici alla gare.
Mia suocera è morta e gli altri tre sono rimasti feriti gravissimamente.
Ma belle-mère è morta e les autres trois sont restés très très gravement blessés.
Alors on est dans cette salle d'attente devant ce panneau avec le nom des victimes et cette expression terreur fasciste. Alors que si on évoque les années 70 en Italie, c'est d'abord les Brigades Rouges dont nous avons longuement parlé qui viennent à la mémoire. Or ces années ont été marquées profondément par cette terreur noire, par ce terrorisme noir, ce terrorisme fasciste qui a sévi. Alors la première piste a été justement celle de groupuscule, Paolo Bolognesi.
Ci sono state una serie di rivendicazioni.
Il y a eu une série de rivendications.
Ma sono iniziate immediatamente le indagini, diciamo dal giorno dopo, immediatamente, anche perché questo avvenimento è stato.
Les enquêtes ont commencé dès le lendemain, mais il faut savoir que ces enquêtes ont été polluées, ont été manipulées, ont été détournées d'une façon absolument effrayante.
Mais qui a revendiqué, je voulais savoir, est-ce que l'attentat a été revendiqué d'abord?
C'est une revendication des NAR.
La première revendication a été des NAR.
Et puis, c'est smentita la revendication.
Ça a été, après, la revendication a été démentie.
E poi ci sono state altre rivendicazioni di altri gruppuscoli, sempre fatta la rivendicazione e respinta.
E après il y a eu toute une série de revendications de petits groupuscules d'extrême droite et quelques heures ou quelques jours après elle était démentie.
E sono iniziati comunque i vari depistaggi fatti da parte dei servizi segreti italiani.
Tout de suite on a commencé à détourner les enquêtes et le détournement était fait par les services secrets italiens.
Che all'epoca avevano tutti i direttori, che erano tutti i servizi segreti, tutta la sicurezza italiana era nelle mani della loggia massonica P2.
Les services secrets et les services de sécurité de l'époque en 1980 sont tous dirigés parle des affiliés de la loge maçonnique P2.
Ça veut dire que vous pensez qu'il y a une complicité entre les services secrets et les fascistes du NAR.
Certo, tra l'altro, nell'ambito del processo sono stati condannati.
C'est pas une conviction personnelle. Pour ce massacre ont été condamnés Licio Gelli, qui était donc le maître vénérable de la loge maçonnique P2. Il faccendiere, c'est-à-dire l'homme de main, l'homme louche, Pazienza, qui était une des liaisons entre Licio Gelli et les services secrets, et entre Licio Gelli aussi et les services secrets non italiens. Et le général Musmeci et le colonel Belmonte, qui étaient à ce moment-là les deux dirigeants, les deux chefs du SISMI, qui était l'un des deux services secrets principaux italiens.
Alors voilà l'analyse que fait Paolo Bolognese, qui est donc le président de l'association des victimes et des survivants de l'attentat de Bologne du 2 août 1980. Quelqu'un qui va nous donner des précisions très compétentes, c'est le plus compétent probablement dans cette affaire, c'est le président de la cour d'assises de Bologne aujourd'hui, juge au tribunal d'application des peines, Libero Mancuso, qui a longuement enquêté et jugé cette affaire. Liberto Mancuso.
Il processo sembrava andare verso la estinzione completa.
On était prêt à classer l'affaire.
Voilà. Riuscimmo a rimetterla in piedi.
On a réussi à la remettre sur pied.
E arrivammo a identificare.
On est arrivé à identifier les auteurs matériels.
Neofascisti che operavano.
Des néofascisti qui opéraient sur le territoire national et en particulier à Rome.
E i loro protettori tradizionali che erano il capo della P2.
Et leur protecteur traditionnel, qui était le chef de la loge maçonnique P2, Licio Gelli.
Gelli era già stato condannato in primo grado.
Licio Gelli avait été déjà condamné à cette époque.
Per avere sovvenzionato la banda armata di neofascisti aretini, strettamente collegata.
Pour avoir subventionné la bande armée des néofascistes de sa région, de Arezzo.
Che praticavano attentati sulla linea tra Firenze e Bologna.
Qui avait pratiqué des attentats à la bombe sulla linea ferroviaria entre Florence e Bologna.
C'era stata la strage dell'Italicus nel 74.
Il y avait eu le massacre du train Italicus en 74.
E altri attentati vari, ripeto, sulla linea, su questa linea ferroviaria.
E d'autres attentats à la bombe sur cette linea ferroviaria.
C'est une subvention importante.
C'est une subvention importante perché questa banda era protetta dai nostri servizi segreti.
C'est important parce que cette bande était protégée par nos services secrets.
E attualmente il capo di questa banda è latitante Cauchi.
Ancora aujourd'hui le chef de cette bande.
Augusto Cauchi, proprio grazie ai suoi rapporti con il SISMI di Firenze.
Augusto Cauchi è ancora en cavale grâce aux protections et à l'aide de la section du SISMI, c'est-à-dire du service secret militaire de Florence.
Où est-ce qu'il est en cavale?
È stato latitante in Spagna. Spagna prima con delle chiaie e poi in Cile.
Il a été d'abord en cavale in Spagna avec un autre néofasciste notoire, il y a aussi le secret Stefano delle Chiaie, et après il a été en cavale au Chili avant de revenir en Espagne pour faire des attentats contre ETA à la solde des services secrets espagnols.
Il a été condamné ici?
Stato condannato, ma molti procedimenti non è stato possibile.
Il a été déjà condamné, mais il a été aussi accusé dans beaucoup d'autres enquêtes qu'on n'a pas porté à terme parce que l'Espagne n'a pas collaboré.
Oui, mais est-ce qu'il est condamné en Italie?
È stato condannato in Italia per banda armata.
Il a été condamné par bande armée.
I neofascisti, terroristi, sono stati costantemente protetti dalla nascita della Repubblica sui servizi di sicurezza.
Les terroristes néofascistes ont été constamment protégés depuis la naissance de la République par nos services de renseignement.
Toujours aujourd'hui?
Ah, je ne sais pas.
Rosa, d'après vous, qui a fait ça?
Non, non sono dei fascisti. Quella è gente che sapeva dove colpire, erano pagati. Perché quello lì non è stata una strage fascista. Io non ci credo a questo.
Moi je crois pas que c'est un massacre fasciste.
Loro volevano fare qualche altra vendetta.
C'est quelque chose d'autre, peut-être avec sûrement des histoires de complot, des vengeances transversales, et peut-être c'était des gens, d'après moi, c'était des gens payés, c'était des professionnels, c'était pas des militants d'extrême droite qui faisaient ça par idéologie, c'était quelqu'un qui était payé, parce qu'il savait trop bien quoi faire.
Voilà le point de vue de Rosa qui tient la buvette du quai numéro 1, et elle n'est pas si loin après tout de l'analyse que fait le juge libéraux Mancuso. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose derrière les exécuteurs de ce massacre de Bologne. On vient de parler de la loge P2, on vient de parler de Lucio Celli. Qui est cet homme? Quelle est cette fameuse loge P2? On va pour ça à Rome. On va via Veneto à Rome. On entre dans l'hôtel Excelsior, un grand hôtel, un des plus grands hôtels de la via Veneto à Rome. Et là, on a rendez-vous avec Roberto Fabiani, un très grand journaliste qui a publié, lui, un livre en 1973, précisément sur la loge P2.
Oui, alors tu es assis sur le fauteuil d'habitude occupé par un monsieur, un citoyen normal, mais qui a marqué quand même 10 ans de vie italienne. Son nom c'est Licio Gelli, aujourd'hui il est âgé de 85, il vit dans sa magnifique villa en Toscane, et il a marqué la vie publique italienne pour 25 ans quand même. Alors, que faisait ce type-là? C'était le chef d'une loge maçonnique qui s'appelait P2. P signifie propagande. Deux, pour la distinguer d'une autre loge maçonnique très ancienne qui s'appelait tout à fait propagande. Et alors, la deuxième s'appelait propagande 2. Dans cette loge étaient réunis les frères les plus importants de la franc-maçonnerie italienne. Mais le particulier de cette loge, c'est qu'elle réunit ministres, gouverneurs, secrétaires d'État, chefs de l'armée de l'air, de la marine nationale, les chefs de banque, les chefs des entreprises publiques.
Les médias?
Le média, oui, il y avait l'éditeur du Corriere della Sera, qui est le plus grand journal d'Italie, Angelo Rizzoli, une douzaine de journalistes de la RAI, et en plus la diplomatie, les services secrets, la police, quelque chose de tout à fait incroyable. Et en plus des entrepreneurs privés, très importants, même Silvio Berlusconi. Il faut préciser que Silvio Berlusconi est resté dans peu de temps, et on n'a pas de document qu'il a eu quelque chose de particulier avec M. Licio Gelli, mais en effet, il était dans les listes de la P2. Licio Gelli, c'est un personnage encore aujourd'hui inconnu, si on veut. Dans sa jeunesse, il était fasciste, et ça ne m'étonne pas. Il est né en 1919, et donc en 1940, il était âgé de 21 ans. Il a combattu en Espagne.
Du côté de Franco ?
Bon, bien sûr. Volontaire, volontaire. Et après, il a combattu avec la République sociale italienne, signifie le gouvernement fasciste du nord d'Italie, quand la moitié d'Italie était déjà libérée. Mais après la guerre, il a changé d'avis et il est devenu en effet un démocrate chrétien. Homme de droite, bien sûr. Il a commencé une activité d'entrepreneur dans le secteur textile en Toscane. Mais c'était en effet une couverture. Son travail principal était faire des grandes affaires internationales. Et surtout, à partir des années 60, 65, si on veut, la PD, qui a eu une extraordinaire importance dans la vie publique, pas seulement italienne, mais je pense aussi internationale. Ce monsieur avait une capacité extraordinaire de pénétrer dans n'importe quelle ambiance et toujours au plus haut niveau. C'est sûr qu'il était ami personnel du président des États-Unis, Jimmy Carter. Il était ami de Juan Perón, de sa femme, la première, Eva, et de la deuxième, Isabelita. Il était ami des militaires argentins qui ont fait le coup d'État et sont restés au pouvoir longtemps. Il était ami du duc de York. Et en plus, il avait des très, très grandes bonnes relations avec les services secrets américains, mais aussi avec les services secrets russes. Il était même un agent double qui servait de patron.
Alors, mais qu'est-ce qu'ils faisaient tous ces gens-là? Quel était leur but?
Le but était exercer le véritable pouvoir. Ça signifie qu'on fait une équipe extraordinaire pour s'aider l'un l'autre, pour se couvrir l'un l'autre, pour placer des amis dans les lieux où peuvent être utiles aux amis. Donc, si on regarde bien, c'était un groupe mafieux qui allait bien plus loin que la traditionnelle solidarité de la franc-maçonnerie et qui a vraiment marqué la vie publique. Si on pense que les trois chefs des services secrets venaient ici, prenaient place dans ces fauteuils et parlaient avec lui pour 2 heures, Licio Gelli avait son avis à dire et il faudrait l'écouter, hein. Il exerçait le véritable pouvoir. C'est le pouvoir secret, n'est-ce pas? Et pour lui, c'était une raison de vie.
C'est-à-dire que là où nous sommes assis, dans ces fauteuils de cet hôtel luxueux de Rome, il y a eu pendant des années un marionnettiste.
Ah oui, oui, oui. A été pour des années le centre de la vie publique inconnue. Et plusieurs ministres ont été créés ici, sur ce fauteuil. Plusieurs généraux, plusieurs chefs de l'armée, des services secrets ont été nommés ici. Et des magistrats. Jamais oublier la magistrature, hein?
Non, non, Roberto, on n'oublie pas la magistrature et on retrouve tout de suite notre magistrat à la gare de Bologne, Libero Mancuso. Qui a été le juge d'instruction sur l'affaire de la bombe du 2 août 1980 à Bologne et qui, maintenant, nous éclaire sur la loge P2, sur le rôle de la loge P2 dans l'attentat de Bologne.
Della P2 e dei servizi segreti sono stati condannati per avere deviato le indagini di Piazza Fontana.
Les hommes de la P2 et membres des services secrets ont été condamnés pour avoir détourné les enquêtes sur la bombe de Piazza Fontana.
Sono intervenuti per deviare le indagini per l'attentato di cui si è occupato Casson.
Ils ont travaillé pour détourner les enquêtes du massacre de Peteano, celui sur lequel le juge Casson a enquêté.
hanno impedito l'accertamento delle responsabilità per l'Italicus e per la banda Retina.
Ils ont empêché qu'on arrive à croire l'enquête sur la bombe, sur le train Italicus et, pour toutes les, et sur toutes les bombes mises par les néofascistes de la région d'Arezzo, celui qui est la région de Dicciogelli, et sur la ligne Bologne-Florence.
Il momento della svolta di tutta l'inchiesta.
Le moment du tournant de l'enquête.
Fu quando accertammo che.
Le tournant de l'enquête était quand on a certifié, on a vérifié que de l'explosif qui était retrouvé 5 mois après le massacre de Bologne sur un train qui allait de Taranto, qui est dans le sud de l'Italie, à Milan,
era stato collocato da parte di ufficiali, dai vertici dei servizi militari di sicurezza.
Avait été laissé sur ce train par les dirigeants des services secrets militaires.
E erano tutti iscritti alla loggia massonica P2 di Dicciogelli.
Siete tous affiliés à la loge maçonnique P2 de Dicciogelli.
E c'era anche Francesco Pazienza, che era stato collocato ai vertici del nostro servizio segreto militare da servizi americani.
Il y avait aussi un monsieur qui s'appelle Francesco Pazienza, qui revient souvent dans ce groupe d'enquête et qui avait été placé auprès de la dirigeance de nos services de renseignement par les services de renseignement américains.
Viene soprattutto poi dal fatto che riuscimmo ad accertare tutto questo.
Nous on a réussi à établir les faits grâce à la collaboration d'un maréchal des carabiniers qui avait collaboré avec les dirigeants du service secret italien pour détourner l'enquête.
Il a avoué. Sì, ha collaborato nel corso di una notte drammatica in cui lo interrogammo con il collega Sica.
Il a collaboré au cours d'une nuit dramatique où moi et mon collègue giudice Sica on l'a interrogé pendant toute la nuit à propos de ça.
Qu'est-ce qu'il a dit au juste? Che aveva matérialmente préparé questo esplosivo, la cosa grave.
Ce maréchal donc il a admis avoir participé au placement de cet explosif 5 mois après sur les trains
et que su ordine di
c'était lui qui avait matériellement préparé l'explosif et l'avait mis sur les trains sur ordre de la direction des services secrets. Et la chose qui était vraiment définitivement explosive, si je peux me permettre le jeu de mots, était le fait que cet explosif-là était exactement de la même qualité, de la même nature que celui qui était utilisé 5 mois avant pour faire exploser la bombe à Bologne.
Et évidemment, il faut suivre. Il faut suivre, mais il est évident que cette loge P2 a été derrière toutes ces années, en fait, toutes ces années de terrorisme noir, derrière tous ces attentats, on trouve cette loge P2 et, vous avez compris, dans cette loge P2, on trouve toute une série de personnages haut placés de l'État, tous les grands décideurs, tous les détenteurs de pouvoir, leaders d'opinion, etc., font partie de cette loge P2 et on va voir que cette loge P2 est en liaison avec le système Gladio, c'est-à-dire les services secrets de l'OTAN et des États-Unis. Voilà contre quoi se battent ces jeunes d'extrême gauche, des groupes extra-parlementaires, et voilà dans quelles conditions, dans quel cadre historique maintenant ont lieu ces attentats et ce qu'on appellera le terrorisme rouge, opposé évidemment à ce terrorisme noir.
Questa bomba, per quello che è possibile ipotizzare.
Cette bombe, c'est une forme de chantage que Dicciogelli faisait aux gens qu'il avait jusque-là soutenus, qu'il avait fait arriver au sommet de l'État, au sommet des services de renseignement, au sommet des armées militaires. Et c'était sa forme de chantage, c'était sa manière de dire « je ne m'en irai pas si facilement, vous ne débarrasserez pas de moi si facilement ». Donc c'était son chantage, c'était sa déclaration de chantage.
Presto, diciamo, l'alleanza con le bande neofasciste avviene sin da subito, attraverso Borghese, Delle Chiaie, Pilger, sono personnages, tous quanti.
C'était sa manière donc de faire du chantage, parce qu'il faut se rappeler aussi que c'était vraiment un homme, c'était un agent d'influence très fort pour l'Italie, mais c'était aussi un pilier international d'un réseau qui avait des liens aussi bien avec les néofascistes des bandes armées, mais aussi avec toutes les extrêmes droites institutionnelles aussi, par exemple en Amérique du Sud. Videla plutôt que Massera a été inscrit dans la loge P2, et les généraux uruguayens et les généraux argentins ou chiliens étaient inscrits à la P2. Donc quelque part c'était quelqu'un qui sûrement ne voulait pas abbandonner la place.
Iscritto alla P2 era Sindona, era Calvi, il Corriere della Sera era nelle sue mani completamente, dagli editori al direttore.
Licio Gelli était en Italie l'homme qui dirigeait par moment début des années 70 et le début des années 80, qui a dirigé effectivement le pays. Il contrôle complètement le Corriere della Sera, le principal quotidien italien, de l'éditeur jusqu'au directeur en passant pour les chefs rédacteurs. Il contrôle tous les services secrets, il nomme lui-même tous les chefs militaires et le chef d'état-major. Ils sont tous passés à ce moment-là pour la P2.
Donc, ils
sont tous impliqués dans des tentatives de coup d'état avortées ou des projets de coup d'état qui ne se sont pas mis à l'œuvre, mais ils sont tous impliqués. La bombe à Bologne, c'était pour dire à tous ces gens, je ne vais pas m'en aller si facilement.
Ma io lo conosco bene.
Je le connais bien.
Lui è un poeta.
C'est un poète.
Dunque, guardi, se lei conosce Licio Gelli.
Si vous rencontrez Licio Gelli.
Si accorge che, cioè, uno per essere grande nel male.
Pour être grand dans le mal.
Deve essere grande.
Faut être grand quand même.
Voilà, c'est assez admiratif les propos de Francesco Cossiga. Oui, Francesco Cossiga, ex-président de la République italienne, ex-président du Conseil, ex-ministre de l'Intérieur au moment de l'affaire Aldo Moro, qui aujourd'hui nous parle de Licio Gelli. Il n'a pas beaucoup de reproches bien graves à lui faire.
Personnellement, je crois que la P2...
Personnellement, je crois que la P2
sia stata una invenzione americana.
C'était une invention américaine.
Per mettere insieme.
Pour mettre ensemble.
Quando si avvicinavano i due schieramenti Democrazia Cristiana e Partito Comunista.
Pendant que on assistait al rapprochement entre Parti Communiste e Démocratie Chrétienne.
Per mettere insieme i quadri.
Pour rassembler les cadres,
gli altri quadri, civili e militari,
les autres fonctionnaires civils et militaires,
più filo-atlantici e filo-americani,
le plus filo-atlantiste et filo-américain.
Questa è la mia tesi.
Ça, c'est mon ipotesi.
La P2 era composta di grandi signori.
La P2 était composée de grands seigneurs.
Tutti di destra, o quasi, filo-americani.
Tous filo-américains de droite.
Non è che loro hanno infiltrato lo Stato. Sono loro che sono quelli che comandavano già nello Stato che si hanno fatto questo club.
C'est pas qu'ils ont infiltré l'État, ils étaient déjà dans l'État, ils ont formé un club entre eux.
Un club ultra-américain.
Un club ultra-américain.
C'est pas très démocratique ça quand même.
Bon,
c'est pas très républicain ça quand même.
Bon, né républicano né démocratique.
Ni républicain ni démocratique. J'en conviens.
L'Italia!
Poi dopo io sono corsa fuori, mi sono sdraiata sul giardino che è lì fuori.
Je suis arrivée à sortir, je me suis allongée dans le petit jardin qui est en face de la gare.
Ho telefonato a mia madre, ho detto io sono viva, è scoppiata la bomba in stazione.
Et j'ai appelé ma mère pour lui dire je suis vivante. E c'è una bomba che è esplosa nella gara.
Però io sul momento loro avevano detto che era una fuga di gas.
Sur le coup, ils ont commencé à dire que c'était une fuite de gaz.
Non usciva gas. Io ho subito detto è stata una bomba perché c'era puzza di sparo di polvere, capito?
Moi j'ai senti tout de suite une odeur de poudre très prononcée. e donc ça pouvait pas être du gaz, j'ai tout de suite dit c'est une bombe.
Dopo io cosa ho fatto? Mi sono alzata, sono andata incontro a delle altre persone che conoscevo come per dire io sono viva, non mi sono fatta niente. Però la cosa più schifo che mi ha fatto quando c'erano gli sciacalli.
La chose qui m'a plus dégoûté, c'est de voir les chiacalli sulle cadavre.
Ho visto un signore che si è infilato una mano di una donna in tasca con tutti gli anelli, mi ha fatto schifo.
E notamment j'ai vu quelqu'un qui a pris la main d'une femme plein de
la main coupée
plein de bagues et qui se l'est mis dans la poche.
Voilà ce dont se souvient Rosa de ce 2 août 1980. Image terrible qui, bon, telle qu'elle s'en souvient. Mais ce qu'on sait depuis, c'est la responsabilité derrière ceux qui ont fait l'attentat, c'est-à-dire des militants d'un mouvement d'extrême droite, c'est ceux qui ont commandité cet attentat, c'est-à-dire les responsables de la loge P2. Et il faut savoir, Roberto Fabiani, notre ami journaliste, a enquêté, lui, pendant des années, il venait dans cet hôtel Excelsior parler avec Lucio Gelli, qui est extraordinaire, c'est à la fois l'opacité de ce pouvoir secret, et à quel point tout ça était parfaitement public, une espèce d'opacité transparente. Roberto Fabiani.
Et le siège officiel de la P2, qui était même sur le répertoire téléphonique, avec un nom, bien sûr pas P2, mais Centre d'études sociaux. Le siège était d'habitude vide. Il n'y avait personne là. Il travaillait ici. Son point de commande était l'hôtel Excelsior. Le grand scandale a éclaté en 1981 à l'occasion d'une perquisition de la brigade financière de l'entreprise de Licio Gelli près d'Arezzo. Quand a été découverte une valise avec des documents et avec la liste des frères qui étaient dans la P2. Il y avait 958 noms qui étaient seulement une partie de membres de la P2. Car en effet, les membres de la P2 étaient 2700.
2700?
Oui. Quand le scandale a éclaté, une grande commission parlementaire a été nommée, composée par 40 députés et sénateurs, et tout le monde a découvert la P2. Mais c'était un théâtre. Il était des menteurs en disant qu'il ne connaissait pas. Au mois d'avril 1981, soudain, le gouvernement a démissionné. L'état-major a démissionné en bloc. Les services secrets sont finis dans la tempête, car les chefs étaient tous dans la P2. Les banques, mais la vie publique a été bouleversée complètement, et ça durait quand même 5 ans.
C'était donc, ça fonctionnait comme un état dans l'état.
Oh oui, ça fonctionnait exactement. Un état dans l'état, une administration dans l'administration, une armée dans l'armée, une police dans la police, un service secret dans le service secret, etc., etc. On peut dire que la crème de la diplomatie, de la finance, de la politique voulait absolument être amie dans la P2. Et il y avait la queue ici, hein, ici à l'Excelsior. Il y avait la queue pour s'inscrire à la P2. Car ce monsieur avait convaincu tout le monde que le pouvoir de la P2 était énorme. Et peut-être qu'il disait la vérité. Peut-être qu'il disait la vérité.
Est-ce qu'il y avait un projet de prendre le pouvoir de coup d'État?
Non, c'était pas nécessaire faire un coup d'État. Si on continuait sur la même route d'attirer dans la P2 tous les fonctionnaires, les officiers, toutes les structures de l'État, le coup d'État était déjà bien fait, non? Sans besoin de mettre les militaires sur la chaussée, n'est-ce pas?
Est-ce que Licciogelli a été arrêté ou qu'est-ce qu'il est devenu?
Licciogelli a été arrêté en Suisse sur la demande des autorités italiennes et il est resté en prison pas trop longtemps, il me semble 3-4 mois, et après a été mis en liberté. Il a subi un procès ici à Rome, mais il a été acquitté. En effet, sur le plan juridique, il n'existait un crime à lui attribuer. Au procès, il a été acquitté.
Et ensuite, qu'est-ce qu'il est devenu?
Aujourd'hui, il est devenu un vieux homme qui reste en silence. Il ne donne jamais des entretiens, par exemple. Il n'a jamais écrit rien. Il écrit des poésies.
Voilà, on m'a dit ça.
Oh, oui. Il écrit des poésies. Il semble qu'il ne soit pas mal. En
ah
plus.
Bon?
Non, oui. Et il est là. Bon, maintenant, il est âgé de 85. C'est un vieux homme, maintenant.
Poète et marionnettiste, une manipulation étonnante pendant des années et des années. Donc, cette loge P2 avec Licciogelli au milieu a manipulé tout ce pays, le terrorisme noir, comme en partie, et là c'est tout un autre volet qui s'ouvre, comme en partie, probablement, possiblement, là, le terrorisme rouge. Mais là, ça nous ouvre d'autres recherches, d'autres questions. Une réponse, en tout cas, pour clore aujourd'hui cette étape de notre enquête, c'est Paolo Bolognesi, parce que qui est président de l'association des victimes et des survivants de cet attentat, de l'attentat de d'août 1980 à la gare de Bologne. Parce qu'évidemment, on a envie de savoir si c'est vraiment un chapitre à jamais clos, qui est un objet d'histoire avec tout un tas d'enseignements possible, ou s'il y a une continuité avec aujourd'hui.
Cioè, voi dovete tenere presente che tutte le questioni legate alla loggia massonica P2 sono di un'attualità evidente.
Il faut avoir en tête que toutes les histoires liées à la loge massonique P2 ont encore une actualité évidente.
Evidente perché la loggia massonica P2 aveva un progetto politico che era il piano di rinascita democratica.
Parce que la loge massonique P2 avait un projet politique qui s'appelait le plan de renaissance démocratique.
Silvio Berlusconi è un iscritto alla loggia massonica P2.
Silvio Berlusconi è un affilié della loggia massonica P2.
È come vedere un iceberg, no? La punta è la strage.
Faut toujours penser un peu à avoir en face un iceberg. La partie émergée, c'est les massacres, mais la partie qu'on ne voit pas est va beaucoup plus profondément que la partie qu'on voit.
L'important, c'est de maintenir la mémoire.
L'important, c'est de garder la mémoire, de préserver la mémoire. Si on garde et on préserve la mémoire, alors on pourra continuer à enquêter et peut-être qu'un jour, on aura toute la justice, toute la vérité. Si on perd la mémoire, si on oublie, évidemment, on n'aura plus ni justice ni vérité.
Merci à tous. C'était Des années noires aux années rouges, une émission de Daniel Mermet avec la complicité de Francesco Giorgini. À la technique aujourd'hui, il y avait Rémi Quincet et Michel Bézikian, l'équipe de la Bassie J'y suis, et bien sûr Christophe Imbert au répondeur, à la réalisation Antoine Chao et Yann Chouquet, assisté de Pascal Pascariello. Et puis je vous rappelle vite fait le numéro du répondeur de l'émission, c'est le 01 56 40 37 37.